Bienvenue sur le podcast Une Session Presque Parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif, aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Une Session Presque Parfaite, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain Luciani, fondateur associé de l'Expus Avocat et cofondateur du réseau Goji Avocat, pour nous parler donc de la cession partielle du capital de l'entreprise. Bonjour Romain.
Bonjour Eliott.
C'est un plaisir de partager ce temps-là avec toi. On va parler d'un sujet qui est aussi très important, puisqu'on parle très souvent de cession totale, mais aussi une alternative qui est la cession partielle. Et tu es venu donc nous parler de ce sujet-là. Avant évidemment de rentrer dans le détail du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais avec ton cabinet et le réseau que tu as fondé également?
Écoute, merci Elia de m'avoir invité. Donc pour te présenter brièvement notre activité, nous on est spécialisé l'Explus Avocat en opération corporate M&A. Donc on va suivre les entreprises aussi bien au niveau start-up que entreprises PME plus matures dans leurs opérations au niveau du capital. Donc on peut être sur du capital risque, sur des opérations de cap dev ou des opérations de cap transmission, voilà, pour développer leur entreprise. On est une équipe aujourd'hui de 7 personnes que je pilote et on a des clients sur tout le territoire français. On est basé à Lyon, donc avec une clientèle qui n'est pas que sur la région Rhône-Alpes. On va travailler aussi avec des entreprises étrangères sur leur implantation sur le territoire français. Et par ailleurs, donc j'ai fondé le réseau Goji, qui réunit des cabinets de niche aux expertises complémentaires en droit des affaires, à savoir le droit de la propriété intellectuelle et des contrats, la fiscalité internationale, le droit social et le droit du travail, et contentieux des affaires. Voilà, pour notre actualité en 2024, on va ouvrir prochainement un bureau sur Grenoble et sur Paris.
Avis à tous les Grenoblois, donc pour qui a un très beau vivier de start-up, de boîtes innovantes.
Oui, de PME Tech aussi, avec un riche vivier d'ingénieurs entrepreneurs.
Exactement.
Donc un lieu intéressant pour nous. Et Paris également, pour nos clients, aussi bien parisiens que étrangers, donc d'avoir une présence parisienne établi.
Merci beaucoup Romain pour cette présentation. Alors on va parler donc de cession partielle, de cash out. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'implique concrètement, enfin exactement, la cession partielle du capital d'une entreprise, Romain?
Alors moi j'aime bien sur ces questions-là prendre les termes, chacun des termes pour bien définir le périmètre d'une opération comme celle-là. Donc là, il y a le terme déjà cession. Donc on est vraiment dans une logique d'opération de cession de titres, donc de cash out, où on va céder une part du capital. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ces opérations de cash out, c'est effectivement l'argent investi ne va pas dans l'entreprise, mais plutôt dans les poches du cédant. Donc à distinguer d'une opération de cash in, où là, on est dans un investissement, une injection de fonds dans la trésorerie de l'entreprise, avec pour objectif de la développer. Bien évidemment, c'est pas blanc ou noir, hein. Il y a des opérations avec une coloration, on va dire, plus de cash out qui va intégrer aussi une partie de cash in. Donc on peut avoir des opérations de LBO qui intègrent aussi une injection en investissement au capital de l'entreprise, et on peut avoir aussi des opérations à coloration de cash in type levée de fonds, où il va y avoir une part de cash out, pour récompenser peut-être les associés historiques, les fondateurs, pour le travail effectué jusqu'à cette levée de fonds, donc et puis les motiver au développement de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment sur la distinction, on va dire, cession. Et ensuite il y a vraiment l'aspect partiel. Alors c'est ce qui fait toute la complexité d'une opération de cession. C'est qu'on va céder uniquement une partie du capital. Et qu'est-ce que ça implique de céder uniquement une partie du capital? C'est qu'on va se retrouver marié, entre guillemets, associé avec l'acquéreur. Donc il y a un vrai sujet, il y a une couche de complications, de complexité supplémentaire par rapport à une cession totale du capital, où il va falloir vraiment sécuriser les modalités d'association.
Tout à fait.
Voilà. Et puis après sur la cession, il y a toutes les problématiques classiques d'une cession d'entreprise, avec les problématiques de gap, d'accompagnement, de structuration de prix, prix initial, complément de prix, voilà. Et ensuite sur ces opérations là il y a aussi régulièrement une complexité supplémentaire, c'est sur la structuration d'un financement.
Tout à fait. Ouais.
Et souvent sur ce type d'opération, effectivement, notamment, je pense à des opérations LBO avec une prise de partielle du capital de l'entreprise, majoritaire ou minoritaire d'ailleurs, qui appelle à structurer un financement d'acquisition un peu complexe par de l'endettement avec des banques, des investisseurs en quasi-fonds propres, en endettement aussi, avec des apports en compte courant d'associés. Et puis aussi, on a des structurations aussi avec du crédit vendeur par le cédant.
Et c'est très bien que tu distingues aussi cash out, cash in, parce que il est en fonction de la typologie de l'opération envisagée, donc si c'est du cash out ou du cash in, il y a des fonds qui vont soit uniquement faire du cash in, donc très souvent ça va être des fonds de VC aussi, parce que start-up, en général, c'est très rare que durant les premières levées, les fondateurs fassent du cash out. Donc, il y a des fonds spécialisés. Bon, il y a des fonds qui font les deux, hein, évidemment, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la distinction entre les deux, puisque ça va aussi conditionner le futur partenaire financier qui prendra part à l'opération.
Tout à fait. Et puis après, t'as des intégrations via des sessions partielle, des intégrations d'associés plus opérationnels, donc sur des opérations qui sont moins complexes en termes de financement, où c'est une notion que l'entrepreneur, on a besoin de le sensibiliser sur cette question-là, c'est-à-dire de dire, voilà, je veux faire entrer telle personne au capital, il va développer l'entreprise. Et souvent, la question qu'on va lui poser, c'est lui dire, OK, à quel prix? On va l'accompagner, évidemment, sur la détermination de ce prix. Mais aussi, où va cet argent? Est-ce qu'il va dans l'entreprise? Est-ce qu'il est injecté dans la trésorerie de l'entreprise pour la développer? Ou est-ce qu'il va dans vos poches pour vous récompenser sur le travail effectué, sur la valorisation aujourd'hui de l'entreprise que vous avez atteinte par votre travail? Donc, il y a une sorte de récompense. Et puis, on peut avoir, bien évidemment, un mix des deux.
Tout à fait. Est-ce que toi, de par ton expérience, parce que parfois, on entend dire que les banques, par exemple, elles n'aiment pas vraiment financer du cash out. Est-ce que tu partages cet avis et qu'est-ce que tu penses? Parce que effectivement, dans ce type d'opération, il y a forcément une grosse part qui est liée au financement, puisque c'est des opérations souvent à effet de levier. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où la banque prêteuse n'était pas à l'aise à l'idée de financer du cash out?
Bah alors c'est un vaste sujet, et puis surtout en ce moment pour être très clair puisque il y a un contexte économique qui est particulier, on va pas se mentir, et puis une hausse des taux d'intérêt. Donc il y a effectivement, quand tu passes par un financement d'acquisition partielle du capital de l'entreprise, Il y a la sécurisation du remboursement de la dette. Donc il faut pouvoir s'assurer de la rentabilité de l'entreprise à moyen terme, hein, voire long terme. Donc on peut être sur du 5, 7 ans, on va dire, voire 7, 10 ans hein, sur certains dossiers. Donc il faut pouvoir sécuriser la banque sur cette capacité à rembourser le financement. Donc ça peut être un peu complexe. Pour rien te cacher, on a même des sujets où on a dû rétro-pédaler dernièrement sur des projets d'acquisition totale d'entreprise où en fait ça a coincé par le financement, immédiat, en disant bon bah la banque, les retours de banque ont été, on n'est pas sécurisé sur une rentabilité pérenne de l'entreprise. Et puis pas forcément sur des domaines d'activité très particuliers. Hein, il y a quand même une certaine incertitude en ce moment sur l'évolution des affaires et sur la capacité aussi, on va dire, d'endettement personnel de l'acquéreur. Donc avec aussi des sujets, est-ce que vous portez caution personnelle sur l'emprunt? Enfin, il y a aussi des sujets un peu aussi qui peuvent être amenés sur la garantie d'emprunt. Donc tout ça pour dire que on a pu envisager plutôt une session de contrôle sur certains dossiers, en disant en termes de structuration d'endettement, ça va passer et ça passe, parce que on a, avec par ailleurs des instruments sur les distributions de dividendes pour sécuriser au maximum la remontée de cash pour le remboursement de la dette, avec des clauses particulières, peut-être qu'on évoquera.
Et puis après aussi, évidemment, il faut être raisonnable. Hein, si le montant du cash out est plus élevé que ce qui est injecté dans l'entreprise, il faut faire attention à toutes ces métriques-là. Et comme tu l'as très bien dit, Romain, toujours faire attention à ce que la société pourra rembourser. Donc bien analyser la capacité d'endettement avant même, de contacter les banques parce que c'est ce qui va conditionner l'opération, la valorisation et l'identification de partenaires financiers. Donc, très, très important. Tu l'as très bien dit, Romain. Alors, forcément, les raisons ne sont pas les mêmes entre une cession totale, et une cession partielle. Alors, selon toi, en fait, dans quelle situation il est utile d'envisager une cession partielle de titres et non pas forcément une cession totale?
Alors, t'as des cas qui sont quand même très variés. Je viens d'en citer un rapport à la capacité de financement. Il y a d'autres sujets aussi où on peut avoir un acquéreur qui a une surface financière totale pour une acquisition à 100%, mais qui envisage plutôt un rachat progressif. Et qu'il faut structurer aussi juridiquement avec des protocoles qui vont s'inscrire dans la durée, mais qui vont être précis dès le départ. Et l'idée de ces structurations là, c'est aussi de bénéficier d'un accompagnement vraiment engagé du cédant sur la poursuite de l'entreprise post cession de contrôle. On peut bien évidemment avoir aussi des schémas où tu fais une acquisition à 100% et puis tu intéresses le cédant avec des conventions d'accompagnement, des compléments de prix, des earn-out sur la durée, pour s'assurer d'une vraie implication opérationnelle dans le projet d'entreprise. Mais là, c'est d'autant plus engageant que tu vas éventuellement lui promettre de racheter ses titres à échéance en fonction de la valorisation de l'entreprise au jour J. Donc, effectivement, il a tout intérêt à ce que la valorisation monte pour une sortie intéressante. Donc ça peut être aussi un cas de figure, ce cas de figure-là. Après, on peut avoir des opérations vraiment, on va dire, classiques de capital transmission avec toutes les opérations LBO qu'on peut envisager. MBO, MBI, OBO. Et donc là, la logique, c'est de dire je veux faire un cash out, mais aussi intégrer des managers qui vont être en capacité de vraiment booster le projet d'entreprise. Et je suis dans cette logique là. Donc il y a aussi cette approche de dire bah on va en financer une partie, intégrer une partie des managers qui vont booster le projet d'entreprise. Et puis par des mécanismes de structuration de dette un peu particuliers en fonds propres, en quasi fonds propres, en endettement, on arrive à leur donner une part du capital plus importante que ce qu'ils investissent dans le projet. Avec bah donc c'est principe un peu de sweet equity, donc ce qui leur permet à terme au dénouement du financement d'avoir une partie du capital conséquente. Donc ça, on peut trouver ça. Il y a aussi eu un moment, et je sais que ça peut être toujours un petit peu le cas, une critique de ces opérations-là, notamment dans les opérations d'OBO,
tout à fait,
qui sont uniquement motivées, voilà, par le patrimonial, par le patrimoine, pardon, du dirigeant. Et en fait, l'entreprise va être au service de ce cash out, en fait, pour rembourser cette dette, hein, pour le dirigeant d'entreprise. Donc, il y a une critique, il y a des critiques un peu sur l'entrepreneuriat par rapport à ces démarches-là, puisque ça peut effectivement amener à impacter l'orientation de la stratégie de l'entreprise, où le dirigeant d'entreprise va d'abord vouloir sécuriser le remboursement de l'endettement pour son cash out, plutôt que privilégier l'investissement sur le développement de son projet d'entreprise. Et puis aussi, il peut y avoir une variable d'ajustement sur les employés. Voilà, donc ça aussi, c'est un sujet qui peut être amené à critique. Après, t'as plein d'autres cas. T'as aussi des cas de prise de participation par un industriel qui va commencer à travailler avec une entreprise, et puis les liens vont se resserrer, et puis à un moment il y a un intérêt à prendre une participation qui peut être minoritaire, qui peut être majoritaire, ça dépend des cas, et pour s'inscrire dans la durée.
Tout à fait.
Donc ça aussi, il y a aussi des warnings à soulever en tant que conseil dans ces schémas-là, dans ces cas de figure-là, mais peut-être qu'on les évoquera un peu plus tard. Tu peux aussi avoir une transmission familiale d'entreprise, ouais, progressive entre une génération 1 et une génération 2. Comment on transmet cette entreprise entre les héritiers, les ayants droit qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui sont impliqués dans l'entreprise, et ceux qui ne le sont pas, un passage de relais en douceur, donc ça, on peut voir ces schémas-là sur. Et c'est vraiment des opérations qui sont très particulières à conduire, parce qu'il y a tout le contexte familial en plus. Donc on peut être un peu moins cash dans les prises de position quand même. Et puis on voit aussi pas mal d'opérations de prise de participation minoritaire, parce qu'on ne peut pas avoir de prise de participation totale dans des professions réglementées. Avec des dérives qu'on a pu voir, il y a des jurisprudences là au niveau des vétérinaires un peu problématiques, où effectivement de façon réglementaire et notamment dans les professions libérales réglementées, tu ne peux pas avoir une participation majoritaire par exemple d'un fonds sur certaines professions. Donc ça dépend des professions, il y a des règlements qui s'appliquent de façon différente selon
à la base des États-Unis. Je crois aux États-Unis ils peuvent par exemple, même pour les cabinets d'avocats, je crois qu'en France un cabinet ne peut pas être détenu par un tiers qui n'est pas avocat.
Tout à fait.
Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est...
Ah oui, c'est très réglementé. Et puis alors, ce qui est assez curieux dans ces professions libérales-là, c'est que d'une profession à l'autre, c'est pas du tout la même réglementation. Mais le principe, c'est quand même, donc c'est un point d'alerte à vérifier quand on va travailler avec des professions réglementées, c'est qu'il y a une détention du majorité par les professionnels de l'activité.
Oui,
donc il y a des textes en fonction des différents ordres, des règlements. Parfois il y a une absence de texte, donc il y a des vrais sujets. Mais effectivement, c'est des professions qui peuvent dégager quand même pas mal de marge, donc qui peuvent intéresser un certain nombre de fonds, mais qui peuvent aussi intervenir dans des opérations de LBO, hein, qu'on peut voir aussi sur différentes professions. Et puis, je pense que on a à peu près à peu près tout dit sur ce type de, d'opération.
Oui, voilà, bah, donc, effectivement, les raisons sont multiples. Et c'est vrai que nous, de notre côté, on... Alors les dirigeants, quand on leur explique justement l'OBO, c'est vrai que ça leur plaît pas mal l'idée de bah, d'une part de sécuriser une partie de leur cash, parce que pour voilà, pour beaucoup de dirigeants, au final tout le patrimoine est dans leur boîte, donc il y a un besoin de sécuriser ce cash immédiat, on va dire, et le fait aussi de pouvoir bah, rester au contrôle de son entreprise et faire ce que les dirigeants aiment faire. Donc parce que parfois très souvent quand on pose et quand on pose des questions, quand on creuse, on se rend compte que le dirigeant il fait des choses dans l'entreprise qu'il aime pas faire et qui crée pas de valeur. Donc l'idée parfois aussi c'est de dégager du temps pour le dirigeant qui délègue, donc qu'il fasse rentrer un partenaire. Donc c'est vrai que c'est souvent décrié voilà comme une opération purement patrimoniale, et il faut d'ailleurs faire très attention par rapport à l'amendement Chara, etc., d'autres dispositifs. Mais c'est vrai que nous on en fait régulièrement des opérations d'OBO, et ça crée la valeur. En fait, il faut que l'opération elle crée la valeur in fine.
Voilà, c'est ça voilà, le plus c'est important. Vrai que, alors on va dire pas nécessairement aussi, hein. Il y a ouais. aussi des logiques de dire, bah, je veux prendre une avance, en fait, sur dividende, hein.
Bah oui, bien sûr.
Parce que j'ai un
projet aussi.
À faire.
Ouais,
fait, ouais. Est-ce que la banque suit? On a une renta, qui est garantie depuis des années. Bon, pourquoi pas? Mais effectivement, on n'est pas dans la logique de,
oui, bah, c'est
de développement de l'entreprise. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même de privilégier des opérations où il y a aussi une dimension de, bah, développer l'entreprise.
Alors, quelles sont les premières étapes, Romain, à considérer lorsque l'on envisage justement de céder une partie du capital de son entreprise?
Bah, en fait, ça revient un peu à ce qu'on vient de se dire, mais c'est déjà se poser la question de la motivation principale de cette cession. Donc, sur les différents cas que j'ai pu évoquer, ça peut être très, très varié, hein, une transmission familiale, un LBO, voilà, c'est déjà de voir ce qui motive principalement cette cession partielle. Donc l'intérêt effectivement c'est de voir s'il y a une possibilité de permettre à l'entreprise de se développer. Donc une fois qu'on a posé un peu les motivations de cette opération, ça permet quand même déjà de la structurer, à savoir pourquoi je fais rentrer telle ou telle personne au capital, qu'est-ce qui motive cette opération. Donc il y a effectivement l'aspect patrimonial qu'on a évoqué et qu'on va évacuer, et après il y a l'aspect de l'intégration de manager ou de partenaire ou même de salarié, hein,
ouais,
dans
sûr.
La structure, et se poser la question qui est une vraie question de fond, hein, quand même, de se dire est-ce que j'intègre un associé au capital véritable qui va porter le projet d'entreprise à mes côtés, ou est-ce que j'intègre un exécutant.
Ouais.
Donc ça, c'est un vaste sujet, et c'est une approche qui est plus humaine que, on va dire, juridique ou financière, hein, mais c'est une réflexion sur laquelle il faut accompagner le chef d'entreprise. Il faut aussi se poser la question de l'après, parce qu'elle est capitale, cette question. J'ai même envie de dire, à mon sens, c'est la plus importante, c'est que une cession d'entreprise, quand tu gères une cession d'entreprise, je vais rien t'apprendre. On arrive quand même à structurer on va dire que la négociation, elle se base surtout sur le prix, les modalités de cession et la gap, on va
Tout
dire
fait.
Les garanties de gap. Donc c'est les gros sujets sur ces cessions-là. Donc on conserve aussi dans les cessions partielles d'entreprise, mais il y a aussi ce sujet de l'association et du management de l'entreprise post-opération. Et ça, c'est un vrai travail aussi sur la gouvernance. Comment on va gérer l'entreprise, comment on va se mettre d'accord pour gérer l'entreprise. Donc sur des opérations de MBO où tu as un manager historique qui reste, il y a déjà une une connaissance. Les gens ont déjà travaillé ensemble, il y a déjà une maîtrise de ça, donc on est moins dans l'inconnu. Mais par exemple, sur l'intégration d'un industriel au capital, qui est un partenaire, donc avec qui tu as une force de négociation, et puis tu as une liberté de rupture que tu n'as pas forcément quand tu l'intègres au capital de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est d'anticiper, excuse-moi, cette situation-là, et de s'imaginer avec ce nouveau partenaire, un nouvel associé, sur le développement de l'entreprise à court, moyen et long terme. Hein. Donc ça, c'est un vrai sujet.
C'est très important que tu le dises, hein, Romain, parce que c'est vrai qu'on pense souvent au process à l'instant T, mais je suis très content que tu le soulignes, et l'après est très important, parce que c'est, il y a l'aspect psychologique aussi qui va conditionner fortement le dirigeant dans la réalisation de son projet de cession. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire après, parce que en fonction de la typologie de l'opération, les dirigeants, il y a un statut social, il y a aussi le fait de qu'ils aiment travailler, qu'ils veulent continuer à gagner de l'argent et à entretenir le rythme, leur train de vie entre guillemets. Donc toutes ces questions là, elles sont importantes parce qu'elles vont conditionner justement le process. Et aussi tu l'as très bien souligné, c'est important de comprendre en fait de qui l'entreprise a besoin, qu'est-ce qui lui manque en interne pour développer au mieux l'entreprise. Et c'est ce qui va conditionner à la fois le choix du partenaire, mais aussi la typologie de l'opération qui sera envisagée.
Oui, et c'est vrai que c'est on va dire qu'il n'y a pas de règle absolue. C'est vraiment et c'est ça qui est intéressant dans ce travail aussi, dans nos professions, c'est que il faut aussi sentir les choses, s'adapter à la situation, proposer les outils, être force de proposition, être deal maker, être business oriented pour effectivement trouver le sur-mesure qui va sécuriser la cession immédiatement et pérenniser l'association. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet. Toujours dans cette logique de préparation, il y a aussi le sujet qui est plus du volet financier, on va dire, qui est la valorisation de l'entreprise et puis la valeur des titres. Hein. Donc effectivement, ce travail-là qui est important, qui peut amener à des due diligence du côté acquéreur, nouvel entrant, on va dire. Hein. Mais aussi, il y a aussi des vendeurs due diligence qui sont de plus en plus, ouais, pratiqué, et c'est assez intéressant aussi nous en tant qu'avocat d'avoir cet accompagnement là au préalable pour négocier aussi sur la structuration du prix, sur le niveau d'endettement si on passe par endettement, sur la renta, etc. Et avoir son bout de gras à défendre, puisqu'on va à tendance, bien évidemment, quand on va faire une due diligence côté vendeur financière, à enjoliver le tableau. Là, ou côté acquéreur, on va plutôt faire le contraire. Mais voilà, arriver à se retrouver dans la négociation. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et nous, on aime travailler avec des équipes compétentes au niveau finance, parce que nous, on n'est pas experts du chiffre. Hein. Donc il faut qu'on se dise, ce sur quoi on s'appuie, les méthodes qui ont été appliquées, elles sont importantes. Et elles sont d'autant plus importantes par rapport à un autre sujet qui est la troisième phase d'une cession partielle, c'est le dénouement de cette association.
Tout à fait.
En fait, il y a trois périodes au niveau de la cession partielle. Il y a la cession, l'opération immédiate, il y a l'association, et ensuite, il y a la liquidité des titres, soit du minoritaire, soit du majoritaire. Et d'ailleurs, il y a des implications qui sont très différentes à cette étape-là, selon qu'on intègre un fonds d'investissement ou qu'on intègre un industriel, par exemple. Mais c'est important puisque on va sécuriser souvent cette liquidité par éventuellement des promesses de cession, des options de cession, d'achat. Enfin, peut-être qu'on parcourra ça après dans le cadre du pacte d'associés qu'on doit envisager. Mais cette méthode de valorisation, elle va potentiellement aussi s'appliquer à la sortie. Donc vraiment, c'est anticiper toute cette opération-là, être solide financièrement quand on est côté s'aidant aussi, d'être bien accompagné au niveau financier pour savoir vers quelle direction on va sur le immédiatement et sur le long terme. Et donc ces opérations de cession partielle, effectivement, elles sont quand même plus complexes qu'une cession totale par rapport à ces trois périodes là, hein, cession immédiate, association et dénouement de cette association éventuelle. Et donc nous, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pousse les clients à déjà border en amont de l'opération ces différentes étapes. Donc, notamment avec un protocole de cession, la mise en place d'un pacte d'associés, qui seront tous négociés au niveau de la première étape, pour qu'ensuite, dans le déroulement, on n'ait plus qu'à exécuter ce qu'on avait prévu au démarrage. Et ça parfois, ça peut en manquer sur certaines opérations où on dit, bon, bah, on s'associe puis on verra après. Et là, on peut avoir des très mauvaises surprises dans ces cas de figure-là.
Et c'est pour ça aussi que quand tu as dit que c'était important pour un dirigeant de se projeter sur l'après, parce que l'après, en fait, comprendre comment vous allez assurer votre train de vie, ça va aussi qu'est-ce que vous allez financer comme projet, dans quoi vous souhaitez investir. Ça va conditionner à la fois l'opération, comme lundi, et l'optimisation fiscale, etc., pour la plus-value, mais aussi ça va conditionner le montant du cash-out qui sera souhaité. Et c'est ce montant du cash-out aussi qui va à la fois conditionner le niveau d'endettement, de combien on a besoin de s'endetter, combien on peut lever en dette, combien on peut lever en capital. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste, et c'est très bien que tu le fasses, Romain, voilà, de se poser toutes ces questions-là, et non pas juste, voilà, je vais juste faire entrer un partenaire. Non, c'est tous ces sujets-là que tu as évoqués, c'est très important.
Oui, effectivement, et tu me fais rebondir sur un sujet, c'est effectivement le sujet fiscal. Le sujet fiscal, il est important aussi parce que au moment où vous vendez, vous faites votre cash out, et le conseil qui va vous accompagner, il a besoin aussi d'avoir connaissance de ce que vous allez faire de ce cash out, de votre situation personnelle au niveau fiscal, pour structurer le deal avec des opérations éventuellement d'optimisation fiscale qu'il faut conduire immédiatement en amont de la cession. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, il faut aussi creuser cet aspect-là avec le client dans le cadre de son projet pour lui dire, OK, d'un point de vue personnel aussi, au-delà de l'aspect entrepreneurial, est-ce qu'il faut bien intégrer cette personne, à quel prix, sur combien de temps, comment on va s'associer, comment on va orienter la stratégie de l'entreprise, aussi sécuriser ce qui va être fait de ce cash out par le cédant dans une logique d'optimisation. On peut avoir des sujets où on a des dirigeants qui partent à la retraite, il y a des questions qui peuvent se poser sur un abattement éventuellement pour des départs à la retraite, des plus jeunes sortants qui font un cash out et qui sont aussi dans une logique de réinvestissement. On peut aussi avoir une logique d'optimisation de la donation dans le cadre de la session. Donc il y a vraiment plein de sujets, c'est très intéressant à aborder aussi et à sécuriser avec le sortant, hein, enfin le cédant, j'ai envie de dire, pas forcément le sortant, mais le cédant, pour structurer ensuite, bien structurer le deal et faire effectivement cette ingénierie juridique et financière indispensable à la bonne réussite de l'opération.
Tout à fait, c'est pour ça que le rôle d'un avocat, on se rend compte qu'il est complexe, et parce que vous devez avoir cette vision à 360 degrés pour justement conseiller au mieux vos clients. Donc c'est très important, voilà, de se poser à la fois les questions pour les cédants, mais aussi, voilà, pour les différents conseils des dirigeants, d'arriver aussi à questionner comme il faut le dirigeant sur ce qu'il a concrètement envie de faire. Parce qu'un dirigeant qui part à la retraite, peut-être que l'apport cession ne va pas lui correspondre, parce que il a envie d'avoir du cash vraiment pour lui, et non pas du cash dans la holding, donc l'argent qui lui appartient pas vraiment. À l'inverse, un entrepreneur qui a 40 ans, bah lui, typiquement, ça peut être une opération intéressante à port cession, parce que il a encore beaucoup de temps dans lui, entre guillemets, et de l'argent qu'il peut investir dans des entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, et à nouveau, j'insiste à chaque fois sur ça.
Oui, effectivement. Et puis, alors, le conseil, on va dire, en corporate M&A, bien évidemment, il n'est pas multicasquette, hein, il n'est pas forcément fiscaliste ou avocat en propriété intellectuelle ou sur des problématiques sociales. Mais l'opération, on va dire, majeure, c'est celle-là, c'est sur le corporate M&A. Et c'est d'avoir le réflexe de dire, ah, il y a un sujet en fiscal. Là, il faut éventuellement qu'on sollicite le fiscaliste. Là, il y a un sujet en propriété intellectuelle. Donc, c'est avoir aussi cette connaissance-là, cette curiosité-là, et pas d'être dans des spécialisations, trop cloisonnées, sans connaissance des champs complémentaires d'intervention juridique, on va dire, en droit des affaires.
Merci beaucoup, Romain. Alors, bon, c'est une petite question comme ça, mais comment on détermine la valeur des parts à céder dans une entreprise, voilà, pour les dirigeants qui nous écoutent ou.
Alors, c'est un vaste, vaste, vaste sujet. J'ai envie de dire le prix qu'on veut bien en payer aussi, parce que il y a effectivement des méthodes de valorisation, il y a énormément de choses. Bon, moi, j'aime bien dire ça aussi sur les évaluations d'entreprise, c'est qu'il y a un moment aussi. Qui est prêt à mettre ce prix-là.
Exactement.
Donc c'est aussi ça la valeur d'une entreprise. Voilà, pour être clair. Mais après il y a aussi dans la pratique et là on revient à la distinction cash in cash out. C'est que dans une opération de cash out généralement pure, sans réinjection au capital et éventuellement sans endettement, on va vraiment se baser sur la photographie de l'entreprise au moment de la cession, sans se dire bon bah potentiellement elle va monter en valeur. Alors je dis ça, peut-être que ça va faire bondir certaines personnes, parce que bien évidemment il peut y avoir des compléments de prix qui vont s'intéresser au prévisionnel, mais voilà, l'idée majeure c'est aussi de dire bon bah ta société aujourd'hui elle vaut tant, donc je te la rachète tant. Et après il y a effectivement des opérations qui vont intégrer un peu plus de caractéristiques de cash-in, où effectivement on va se baser aussi sur le prévisionnel et la capacité de croissance de l'entreprise, et ça peut aussi impacter le prix immédiat, c'est-à-dire que si vous rachetez une entreprise et les prévisions sont plutôt mauvaises, bien évidemment vous n'allez pas payer le même prix immédiatement qu'une entreprise qui a priori va avoir un développement plus fructueux. Donc il y a cette logique là. Dans cette logique de cash out, donc ça va impacter forcément la valorisation. Et on l'a dit peut-être en intro et on va le redire, mais il y a aussi si on passe par un endettement, la capacité à rembourser cet endettement via les bénéfices de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un sérieux curseur sur la valorisation de l'entreprise. Donc on peut être amené aussi à se dire bah moi la société, j'imagine que j'envisage qu'elle soit valorisée à tel prix. On peut avoir des dirigeants d'entreprise qui ont déjà une idée du prix et qu'il faut aussi accompagner dans cette réflexion là de dire ok, peut-être que pour vous ça vaut ça, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une acquisition et notamment par endettement, est-ce que la société est en capacité de rembourser cet endettement bancaire par la remontée de bénéfices. Donc il y a ces sujets-là qui sont importants, qu'on arrive avec certains curseurs dans le pack d'associés, avec des remontées sur de cash un peu particulières, un peu garanties. Donc ça peut-être on y reviendra un peu plus tard, voilà, c'est vraiment des éléments qui, on va dire, qui vont distinguer une opération de cash out et de cash in. On peut avoir par exemple dans des levées de fonds, donc on va être plus dans une logique de cash in, une valorisation qui va être vraiment basée sur le prévisionnel, sur l'évolution de l'entreprise, et avec un prix par action qui va être déterminé, et envisager une sortie pour plein de raisons d'associés historiques, pour cleaner la cap table, pour simplifier la gouvernance, ou parce que certains veulent faire un cash out partiel sur ce qui a été fait, d'avoir un prix de cession par action qui soit légèrement inférieur ou décoté par rapport au prix d'émission d'action. Donc ça illustre bien ce que j'essaye de décrire ici. C'est cette différence de valorisation sur ce que ça peut valoir plus tard et sur ok, en argent sonnant et trébuchant aujourd'hui, c'est ça. Voilà.
Et parfois, alors je sais pas si tu fais aussi ce constat, en tous les cas de notre côté. On remarque que quand un dirigeant reste, l'acheteur financier ou industriel, mais plus souvent financier, est capable de payer plus cher, de mieux valoriser la société parce qu'il sera sécurisé, parce qu'il sait que le dirigeant va être aussi, va continuer à être impliqué et continuer à développer l'entreprise. Donc, parfois, voilà, pas tous, hein, et ça dépend de qui sera le futur partenaire demain, si c'est un industriel ou un financier, mais dans certains cas, c'est vrai que la présence du dirigeant, le fait qu'il reste au contrôle de son entreprise, permet in fine d'augmenter la valorisation aussi de l'entreprise.
Mais oui, effectivement, parce que c'est encore des éléments d'incertitude en moins. Ouais. C'est-à-dire que contrairement à un MBI par exemple où effectivement c'est plus compliqué parce qu'on sait pas du tout comment ça va être géré, il y a quand même une inconnue sur ce genre d'opération là que tu n'as pas effectivement quand on part sur le même fonctionnement, sur la même direction, donc t'es un peu plus sécurisé sur la rentabilité. Après ça dépend bien évidemment des activités. Parce que tu peux avoir une activité qui est florissante une année avec le même manager les années suivantes, c'est peut-être plus la même histoire.
Et c'est pour ça que les fonds n'aiment pas trop aussi les MBI, parce que bon, il y a ce problème potentiel de greffe qui ne se fait pas. Et parfois, il y a des opérations de bimbo, donc un mix management interne et management extérieur. Mmh. Donc en tous les cas, il y a beaucoup d'opérations qui peuvent être envisagées en fonction de votre situation. Forcément, qui dit cession partielle, dit aussi négociation comme dans toute opération de cession. Alors Romain, toi qui es l'expert aussi de négociation, quels sont les pièges en fait à éviter quand on négocie une cession partielle de part d'une entreprise?
Alors moi, d'un point de vue vraiment sur ces opérations-là, je vais essayer d'aller au-delà des opérations LBO, c'est-à-dire vraiment cette ouverture du capital avec un cash out immédiat. Et ça peut être des petites opérations.
Bien
on
sûr.
Parle pas non plus de très grosses opérations, mais c'est vraiment pour moi le piège à éviter impérativement, c'est effectivement de ne pas anticiper les modalités d'association. On peut avoir des cessions partielles avec des packs d'associés très light qui peuvent s'avérer très problématiques sur la durée, et aussi sur le dénouement, parce que généralement on a quand même, si on est bien accompagné, on dit ok, cession pacte, mais il y a le problème de la liquidité. Et ça, c'est un vrai sujet qui est souvent pas anticipé. C'est-à-dire que quand on va intégrer peut-être un exemple qui est très parlant, c'est quand on va intégrer un industriel au capital. Alors on a cette historique-là, on a développé un partenariat avec un industriel qui est souvent plus important en termes de taille. Et puis les liens se resserrent, il y a une sorte d'interdépendance qui commence à se créer. Et puis le gros poisson, on va dire ok, il faut que je prenne une participation au capital de l'entreprise pour sécuriser un peu notre interdépendance, notre relation, qui peut être plus ou moins importante. Mais souvent moi j'alerte souvent les clients cédants dans ce type d'opération, c'est de dire attention, quand vous faites cette opération là les titres qui vous restent sont pratiquement illiquides, puisque la seule personne qui va être en capacité de vous les racheter, c'est cet industriel. Personne ne prendra même une position majoritaire dans une société où il y a un industriel au capital, ouais, qui en plus a une réelle interdépendance opérationnelle, donc on peut pas couper les liens comme ça. Et s'il veut pas vendre, par exemple, même si vous êtes bordé dans tous les sens par des pactes, si concrètement l'industriel ne veut pas vendre, ça va être difficile de le forcer à vendre, parce qu'en plus derrière il y a tous les contrats qui les lient à cet industriel là. Donc c'est sécuriser cette liquidité là par différentes clauses. On peut avoir une promesse de cession, une promesse de rachat même dans ce cas de figure, qui soit avec une option de cession qui peut être déclenchée à un certain moment en fonction de l'atteinte de certains indicateurs de performance. Donc ça c'est très varié, mais sécuriser aussi ce dénouement là qui est pas le même qu'avec un fonds.
Bien
où
sûr.
Le fonds, de toute façon, il a une logique
de désinvestissement.
Exactement. Donc ça aussi, ça peut être un problème, parce qu'on peut aussi se dire ah bah très bien, je fais un cash out, mais sans bon, ça c'est bordé généralement dans ce genre d'opération avec les investissements à la sortie. Il n'y a pas de fonds.
Ils se sécurisent très bien.
Il n'y a pas de sujet. Mais quand même, c'est aussi dire au chef d'entreprise attention, ça veut dire que potentiellement dans 5 ans, vous allez être contraint de tout vendre. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt à tout vendre dans 5-7 ans l'entreprise, ou est-ce que vous souhaitez continuer peut-être à la développer, faire un cash out dans une période plus éloignée?
Tout à fait.
Donc oui, effectivement, il y a ces sujets-là. Et encore une fois, pour sécuriser tout ça, je vais sortir une expression sur laquelle mes collaborateurs rient beaucoup, mais être ceinture bretelle, hein, voilà, pour pas perdre son pantalon. Donc c'est vraiment border ces différentes étapes. Dans le cadre, on va dire, d'un contrat cadre qui va être le protocole de cession, l'investment agreement, enfin on peut lui donner plein de noms, mais structurer ces différentes périodes là et aussi avoir un pacte d'associés qui est un peu le cœur du réacteur de ce genre d'opération.
Et ben justement, on va en parler de suite sur le pacte d'associés, parce que qui dit entrée d'un nouveau partenaire, qu'il soit financier ou industriel, dit association et donc pacte d'actionnaires. Et c'est vrai que ce sujet-là est très important, parce que moi aussi, ça m'arrive d'échanger avec des dirigeants, des entrepreneurs, souvent malheureusement des entrepreneurs qui créent une entreprise avec des potes, de la famille, et au final, bon, qui sous-estiment entre guillemets la rédaction du pacte d'actionnaires, et se retrouvent 5 ans plus tard au final sur des gros conflits d'associés. Donc c'est très important, et parce que c'est ce pacte-là aussi qui va sécuriser non seulement l'opération et la relation avec votre nouvel associé, mais aussi c'est après, surtout au moment du dénouement du nouveau déboucage de l'opération. Donc Romain, pourquoi c'est aussi important d'avoir un bon pacte d'actionnaires, et surtout pourquoi c'est important d'aller voir un avocat spécialisé comme toi pour le rédiger?
Alors, tu t'as soulevé un point qui était très intéressant, parce que faut bien comprendre la pratique du pacte d'associés. C'est une pratique qui est anglo-saxonne qui sécurise les modalités d'association en anticipant tous les problèmes éventuels qu'on va avoir avec un associé. Et c'est ça qui fait la richesse d'un pacte d'associés. C'est qui doit couvrir assez largement les difficultés qu'on peut rencontrer entre associés opérationnels et passifs éventuellement, hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le point que tu as soulevé sur des plus petits entrepreneurs, parce que sur des grosses opérations, si tu veux évangéliser sur la nécessité d'un pacte d'associés, t'as pas besoin de le faire. En revanche, sur des plus petits projets, ou même sur des start-up, PME aussi, hein, clairement, il y a plein de PME qui ont pas de pacte d'associés. Moi, j'avais publié un ouvrage sur le sujet qui avait bien fonctionné, qui s'appelait Acceptez-vous de prendre pour associé.
Ah oui, tu en avais parlé effectivement.
Qui était édition Erol, et qui avait vocation à s'adresser effectivement à ce type d'entrepreneur-là, pour les sensibiliser à l'utilité d'un pacte d'associé.
Il est toujours disponible?
Oui, il est toujours disponible. Écoute, il commence à un peu vieillir, parce que je crois que c'était en 2017 ou 2018, donc c'est plus si jeune que ça. Il continue à se vendre. On est parfois interrogé sur l'ouvrage, donc ça c'est intéressant. Sur ce sujet-là, c'était vraiment moi je fais souvent cette comparaison-là, et c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage, c'est Acceptez-vous de prendre pour associé, avec une référence au mariage. C'est en fait un pacte d'associés, c'est pas obligatoire juridiquement, mais c'est comme se marier sans contrat de mariage. Voilà, c'est anticiper un petit peu tous les sujets qu'il peut y avoir entre associés, et qui est un outil qui est très intéressant, parce que on pose sur la table avant le projet, donc avant de réaliser la cession pour ce qui nous concerne, même la constitution de société, les comment on va régler certaines situations. Donc en fait, ça pose aussi une discussion ouverte entre les associés, qui peut d'ailleurs être plus complexe, notamment dans des schémas de transmission familiale, où c'est plus compliqué de se dire les choses, on va pas se voiler la face.
Il y a des sujets tabous, effectivement, mais
C'est hyper intéressant à construire d'ailleurs un pacte d'associés dans ces schémas-là, parce qu'en fait, tu ne peux pas voir toute la famille ensemble. Il faut que tu les vois ensemble, mais il faut aussi les voir
séparément, et
après être vraiment un peu chef d'orchestre en disant voilà ce qui va plaire à tout le monde, enfin ce qui va satisfaire tout le monde.
Pour éviter que ça parte en vrille après.
Exactement, exactement. Pour éviter des familles qui se déchirent. C'est très intéressant à faire. C'est un vrai sujet. Donc le pacte d'associés, c'est une pratique qui est hyper intéressante, parce que elle peut être très créative. Il y a énormément de sujets qui peuvent être bordés dans les pactes d'associés. Mais généralement, on va être sur, on va dire, différentes thématiques de clauses. Voilà, des thématiques de clauses, voilà, avec différentes clauses. Donc, la première thématique qu'on peut avoir dans un pacte d'associés, et notamment sur la cession partielle d'entreprise, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'aspect de la gouvernance. Donc, comment les décisions vont se prendre? Ça, c'est un vaste sujet et on a plein d'outils pour ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on rentre dans une entreprise, la gouvernance, elle se situe à deux niveaux. Elle se situe au niveau de l'Assemblée Générale des actionnaires associés et elle se situe au niveau des dirigeants mandataires sociaux. On utilise de plus en plus, même on utilise pratiquement tout le temps, des SAS, qui ont cette flexibilité sur la gouvernance, qui permettent cette flexibilité sur la gouvernance.
D'inscrire tout ce qu'on veut, entre guillemets.
À peu près. Bon, après, il y a l'ordre public, oui. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, tu as des clauses léonines, etc. Mais on va pas forcément l'évoquer là. Mais donc, c'est un vrai sujet. Donc, on peut avoir, par exemple, dans une session de majorité, un dirigeant qui dit « Moi, je suis prêt à céder une majorité du capital et perdre au niveau financier. En revanche, en termes de contrôle, de gouvernance, je veux rester maître chez moi. » Donc ça, on a des outils pour le faire. On peut mettre en place d'abord au niveau des mandataires sociaux et de l'Assemblée Générale une sorte de passage obligatoire par l'examen des décisions à prendre importantes, qu'on va qualifier bien évidemment, d'un comité stratégique. Ce comité stratégique-là, il va sur des propositions de décision, on va pouvoir appliquer un droit de veto. Donc, on a vraiment une possibilité d'empêcher la sortie de décision qui ne nous convienne pas, tout en restant minoritaire, en disant « Ok, moi, je vous cède la majorité du capital. En revanche, je veux avoir un vote prépondérant dans le comité stratégique sur des décisions importantes. » Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver assez facilement. On peut pousser le bouchon plus loin au niveau du capital, c'est-à-dire de dire « Au niveau du capital, je vais être minoritaire. En revanche, je veux, par exemple, avoir un droit de vote double ou avoir mon majoritaire qui a des actions de préférence sans droit de vote. » Donc ça, c'est un instrument un peu complexe parce que il faut l'équilibrer pour éviter des clauses léonines avec un avantage. Donc généralement, c'est des clauses de liquidation préférentielle.
Tout à fait.
Mais ça permet de sécuriser un peu le minoritaire. On peut aussi envisager de dire, sur certaines décisions, eh ben, à l'Assemblée Générale, elles se prennent pas sans la décision d'un associé actionnaire identifié. Ou alors encore, se dire, sur certaines décisions, la majorité, elle n'est pas 50%, elle est 40-30%, pour permettre aux minoritaires aussi d'être actifs dans la prise de décision et pas uniquement dans la censure, dans l'exercice d'un droit de veto. Donc ça, sur la gouvernance, bon, je peux t'en parler des heures. Il y a aussi la problématique aussi dans les niveaux d'endettement, les covenants financiers qui sont Exactement. Pas forcément dans le pacte d'associés, mais qui vont aussi contraindre la gouvernance des managers par les banques qui supportent l'endettement de la holding de reprise pour le cash out. Donc là où on va avoir des sujets sur des cessions d'actifs, sur des niveaux de rentabilité, sur des ratios d'endettement à respecter. Donc il y a aussi savoir où on met les pieds en termes de gouvernance. Et en fonction de ton client, il y a des clients qui sont plus orientés finance que gouvernance, qui vont te dire « Moi, je veux sécuriser mon cash. Moi, je veux pas qu'on m'emmerde sur les prises de décision. Je veux pas être dans une contrôlite aiguë de mon investisseur, de mon industriel sur toutes les décisions que je prends. Je veux avoir les mains libres pour conduire le projet. » Donc ça, il faut t'adapter à chaque fois, un peu sur mesure, en disant « Voilà, bah ça, c'est adapté à la situation. » Et puis, effectivement, être dealmaker pour que ça plaise à tout le monde. Voilà.
Donc ça c'est sûr, donc il y a les clauses sur la gouvernance, celles qui vont porter sur le...
Alors oui, sur la gouvernance, voilà, alors oui, donc ça c'est la première thématique.
Tout à fait.
Après on peut avoir effectivement une autre thématique qui est aussi très large, où il y a des clauses multiples, c'est vraiment sur les opérations qui vont intervenir sur le capital à court-moyen terme. Donc il y a énormément de clauses, mais on peut en passer certes, enfin on peut en évoquer certaines. La première qu'on a évoquée dans le cadre d'une session partielle, c'est le dénouement, voilà, de l'association, et notamment de dire comment on va assurer la liquidité des titres de l'associé cédant ou du minoritaire, parce que ça, c'est des schémas qui peuvent être multiples, hein. Mmh. Tu peux être cédant et rester majoritaire post-opération et minoritaire. Donc il y a aussi le minoritaire entrant qui veut sécuriser lui sa liquidité. Donc c'est bordé ce dénouement là avec différents outils. Donc on peut avoir des promesses de cession avec option d'achat. Donc ça peut être par exemple dans le cas de figure d'une cession partielle avec un entrant qui a une volonté d'entrer progressive au capital, de dire je rentre, tu vois, un nouveau manager par exemple, ou dans le cadre d'un MBO, de rentrer, de dire voilà, pendant un temps je reste minoritaire, mais mon objectif quand même c'est prendre le contrôle ou prendre l'intégralité du capital de l'entreprise. Donc c'est d'avoir une promesse de cession du cédant sur les titres restants. On peut avoir l'inverse, c'est-à-dire une promesse de rachat. Donc une promesse de rachat, c'est de dire voilà, je te cède peut-être la majorité du capital de l'entreprise, je fais rentrer un industriel par exemple, hein, je cède le capital de la majorité ou même une minorité du capital de l'entreprise, mais pour assurer ma liquidité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je vais lui demander de s'engager sur une promesse de rachat de mes titres, en disant voilà, dans 5 ans, si on fait tel ou tel... Enfin, et effectivement, éventuellement le conditionner à l'atteinte de certains objectifs. Mais voilà, c'est sécuriser ça. On peut tout à fait aussi avoir un engagement des deux côtés avec des promesses inalagmatiques de vente, hein, donc avec une promesse de rachat, une promesse de cession, on s'engage à
racheter l'autre, les parts de l'autre, exactement.
Voilà, et que l'autre s'engage à les céder. Et puis après, dans les fonds, on peut avoir aussi, quand on intègre un fonds au capital, voilà, les clauses de liquidité.
Ça, elles peuvent. C'est ce que les entrepreneurs et dirigeants aussi redoutent, tout ce qui est les liquidités préférentielles, etc. Donc, ça peut faire mal aussi. Ouais. Si c'est mal calibré ou si c'est mal, on va dire, lié, parce que en fait, les clauses, hein, il faut arriver à jouer, à les faire jouer entre elles, entre guillemets. Parce qu'elles sont, mine de rien, interdépendantes dans la globalité.
Tout à fait. Alors, nous, c'est vrai que quand on a des clauses de liquidité préférentielles, parce que c'est toujours, quand on le couche sur le papier, parce que on y viendra également plus tard, mais quand on le couche sur le papier, une clause de liquidité préférentielle, nous, du côté juriste, il faut que ce soit béton, que ce soit pas sujet à interprétation, sur les rangs, etc., sur ce qu'on retranche, sur ce qu'on retranche pas. Donc, la rédaction, elle doit être impeccable. Mais quand tu soumets ça au client, on est sur un langage juridique technique, il comprend à peu près le principe. Mais nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on lui fait des simulations chiffrées pour qu'il se rende compte effectivement de l'impact. Et souvent, même 80% du temps, on a souvent des « ah oui, quand même ».
Ah ouais. j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, donc « ah ouais, c'est ».
Et ça, c'est capital parce que ils sont pressés de faire le deal. Ils ont pas forcément. Voilà, c'est aussi un sujet, encore une fois, sur l'après. Ok, tout de suite, vous touchez un cash out, c'est hyper intéressant. Mais attention à l'après, hein. Donc, faut pas non plus trop se précipiter. Et ça, effectivement, sur les clauses de liquidité. Donc, liquidation préférentielle. Mais après, il y a les clauses de liquidité où on dit, bon, voilà, avec un fonds, on dit, dans 5 ans, on sort, on vend. Et on peut avoir, selon des fonds, des clauses de liquidité plus ou moins contraignantes. C'est-à-dire de dire, on peut avoir une clause de liquidité assez light, on prend une banque d'affaires, on s'engage, on fait nos meilleurs efforts, et puis éventuellement, on donne suite, si tout le monde est d'accord, à la vente. Mais tu peux avoir des clauses de liquidité, ou s'il y a une offre qui est proposée, on peut avoir l'investisseur qui contraint, en minorité même, hein, qui contraint le majoritaire à sortir avec lui, parce qu'à ce moment-là, en disant, voilà, moi, j'avais dit, il faut que je sorte à ce moment-là, donc, drague longue
ce qu'on appelle sortie conjointe, forcée ou moins forcée, on va dire.
Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important sur le dénouement. Après, sur les clauses relatives au capital social, tu as aussi le droit de préemption. Ça, c'est une clause assez classique, hein. Ouais. Donc, dans le droit de préemption, c'est, comme son nom l'indique, si un associé cède à un tiers, les associés restants peuvent préempter la vente et racheter.
Donc, notifier les associés en leur disant, voilà, moi, je compte vendre. Voilà, est-ce que vous êtes intéressé?
Alors, voilà, donc ça, effectivement, ce que tu évoques là, donc, sur la préemption, c'est quand... pour être précis, mais effectivement, c'est intégré dans les clauses de préemption maintenant, pour être D'accord. très clair. Mais là, ce que tu peux évoquer, c'est le droit de premier refus, mais parfois dans certains deals, on le revoit, mais clairement, il est intégré dans le droit de préemption.
D'accord.
Mais la préemption, c'est vraiment l'opération. Elle est. Il y a un tiers intéressé, en fait. Il y a un tiers intéressé, et je vous le notifie. Ça, c'est la préemption. Et si vous êtes, vous pouvez racheter. Alors après, tu peux moduler ces clauses de préemption sur le prix, c'est-à-dire sur le prix de rachat dans le cadre de du préempteur associé, avec par exemple des recours à expertise aussi, ou de dire si la préemption se fait et que le prix du tiers il est plus élevé que celui de l'expert, la préemption se fait au prix de l'expert. Voilà, avec un droit de repentir aussi pour que celui qui cède se dise bon bah non, en fait moi j'attendais ça, donc finalement je vends plus. Mais tu peux moduler tout ça, sécuriser un petit peu tout ça. Et après tu as effectivement le droit de premier refus, mais qui rentre dans la préemption, c'est tu comptes vendre, et donc t'en parles à tes associés. Tu dis, voilà, je vais vendre, est-ce que ça vous intéresse? Et qu'ils soient en capacité de éventuellement de te racheter. Voilà. Et dans la préemption, on a aussi des outils qui sont intéressants. C'est les rangs prioritaires de préemption. Par exemple, dans le cadre d'une cession partielle où tu as des investisseurs, un manager historique, des nouveaux managers, des investisseurs historiques passifs, de dire en fait dans cette répartition du capital là, j'ai des blocs qui sont distincts et qui permet un équilibre des pouvoirs entre investisseurs et associés opérationnels. Donc de dire s'il y a une sortie dans ce bloc là, dans ce groupe là, par exemple des associés opérationnels, ouais, dans le côté manager, la répartition du capital, elle s'est faite aussi sur cette logique-là de gouvernance. De dire, on va sécuriser le pouvoir politique des managers. Et donc, s'il y a un manager qui sort, ceux qui sont prioritaires pour préempter, c'est les managers. Donc ça aussi, c'est des sujets assez intéressants à mettre en place. Après, il y a des engagements de conservation aussi que tu peux voir. Ça, c'est important. Typiquement,
inaliabilité, tout ce qui est clause.
Voilà, exactement.
Oui, d'accord.
Parce que l'intérêt de ça, c'est tu es entrant, t'es motivé. Un an plus tard, le cédant te dit finalement on vend tout. J'ai un drag along, tu vends avec moi. T'as peut-être mouillé les maillots, mais la plus-value, elle est pas folle. Donc c'est aussi de se dire quand on est entrant de dire. Et aussi du côté cédant, de dire ok, l'objectif c'est qu'on mouille tous le maillot et qu'on sorte à terme avec une plus grosse value. Donc ça aussi c'est des sujets qu'on peut border au niveau capitalistique. Et puis après ce que j'ai beaucoup évoqué là sur ces dernières sur cette dernière clause, c'est effectivement le drag along, donc l'obligation de sortie conjointe. Donc drag, qui veut dire traîner, en anglais, c'est de dire on a un associé qui est en capacité de sortir tout le monde si on a un tiers acquéreur. Donc ça aussi c'est très important à anticiper, à moduler. Et généralement c'est le majoritaire qui a ce pouvoir-là, mais il n'y a aucune obligation à ce que ça le soit.
Bien sûr, parce qu'il y a des fonds minoritaires aussi qui peuvent et qui veulent aussi parfois se comporter aussi en majoritaire. Donc même si capitalistiquement ils sont minoritaires, c'est vrai que souvent ils vont vouloir vraiment se sécuriser par tous les moyens pour leur assurer une liquidité ou au moins ne pas perdre ce qu'ils ont injecté, quoi. Donc.
Et ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, sur le dirigeant,
ouais,
qui cède la majorité mais qui veut rester en contrôle. Donc là, on avait évoqué ce dirigeant minoritaire là, historique, qui voulait garder le contrôle politique. Sur le contrôle de sortie, on peut aussi le mettre en place, c'est-à-dire de dire on vend pas tant que Monsieur X ne vend pas. Il a cette capacité à contraindre les autres associés à sortir. On peut aussi le moduler sur des prix des périodes, une détention du capital. Donc il y a plein, tu vois, de curseurs que tu peux mettre en place qui sont intéressants à utiliser et à proposer aux clients pour que ce soit le plus adapté, quoi.
Merci beaucoup, Romain. C'est vrai que sur le pacte d'actionnaire, on peut en parler vraiment des heures et des heures, tellement c'est un sujet très complexe, mais aussi très très important, surtout dans ce type d'opération. Alors, toi, en ta qualité d'avocat et ton expérience, quelles sont les principales erreurs courantes dans la rédaction du pacte d'associés et surtout, en fait, comment les éviter ?
Alors, pour moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà la première chose, c'est l'aspect sur mesure du pacte. On peut avoir on a des clients parfois qui viennent nous voir en nous disant oui, mais nous c'est bon, on a un pacte. Et puis on regarde le pacte, bon, c'est un pacte standard, mais qui borde pas un certain nombre de sujets. C'est comme une assurance, en fait, un pacte. Tu peux avoir une assurance vraiment minime, mais qui te couvre pas sur les différents préjudices que tu pourrais avoir ou problématiques que tu pourrais avoir. Donc là, en fait, le pacte, c'est vraiment une sorte d'assurance aussi, hein. Donc c'est aussi ce sujet-là, c'est de couvrir vraiment les problématiques potentiellement surgir, et même très certainement surgir sur la durée, parce qu'une association qui se passe sans remous, je suis pas sûr que ça existe, en tout cas j'en ai jamais vu, mais il y a toujours des sujets qui peuvent être problématiques. Donc d'anticiper ces sujets-là et de les border avec les différentes clauses. Bon, on les a pas toutes évoquées, les thématiques, mais c'est aussi les thématiques de mésentente, hein, ouais, qu'il faut border, les thématiques financières aussi qu'il faut border, sur la rémunération, sur les distributions de dividendes, sur les engagements de réinvestissement, et sur les engagements opérationnels aussi, de dire voilà, tu t'engages à être opérationnel dans le projet d'entreprise, à gérer tel ou tel domaine, telle ou telle responsabilité. Si demain tu n'es plus dans l'entreprise, ben être en capacité de te sortir du capital avec des promesses de cession, good ou bad liver, avec des décotes, etc. Donc ouais, effectivement, on peut en parler des heures et on va pas s'étendre là-dessus, mais juste pour bien reposer le contexte, il faut vraiment que ce soit adapté à ces sujets-là. Donc il y a vraiment ce travail-là d'abord d'ingénierie qu'on fait avec le dirigeant, les investisseurs. Bon, souvent les investisseurs ont leur modèle, mais qu'on va venir un peu challenger si on est côté cible, et adapter si on est côté aussi investisseur au cas de figure en présence. Hein. Donc ça c'est important. Au-delà de cette ingénierie juridique-là, il y a la précision rédactionnelle. Et là, c'est vraiment de la cuisine juridique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'avocat, ce qu'on doit anticiper, c'est si ça tourne vinaigre, et qu'on se retrouve devant le juge, qu'on se retrouve pas avec un confrère qui va tordre la rédaction et donner une autre interprétation. Ce qui peut être assez facile, hein, dans certains cas.
Ah oui, tout à fait.
Et puis quand il y a un trou dans la raquette, c'est-à-dire que parfois on a des clauses qui sont trop succinctes et qui anticipent pas la mise en œuvre de la clause, par exemple. Donc ça, effectivement, pour le client, ça peut être parfois un peu du chinois, parce que il se retrouve avec un pacte qui peut faire 50 pages et il a l'impression qu'on a mis des tartines pour mettre des tartines, mais pas du tout. C'est d'anticiper et de laisser un minimum de place dans l'applicabilité du pacte au juge pour son application, c'est-à-dire de dire écoutez, moi je comprends ça dans votre clause, donc on va faire comme ça, ou de la partie adverse qui va dire pas du tout, elle doit être interprétée dans le sens de l'intérêt de mon client, et donc on va être vraiment extrêmement précis là-dessus. Après, il y a d'autres clauses, mais vraiment dans de la technique juridique, s'assurer que la rédaction permet l'exécution de forcée, notamment de promesses de cession que j'ai évoquées très rapidement, ouais. Mais dans les cas de good ou bad liver, il y a un rédactionnel à gérer en termes de délai d'engagement, en termes d'application des textes. Donc sécuriser ça au maximum. Pour s'assurer en fait que le pacte, si on l'utilise, parce que parfois on ne l'utilise pas du tout, mais si on va jusqu'à la phase judiciaire, qu'on n'ait pas de sujet. Et nous, on a eu plusieurs fois ce cas de figure-là, et on était très contents parce que on avait notre team contentieux qui revenait en nous disant à le tribunal de commerce, nous a dit votre pacte il est béton, donc on était assez fiers de se dire ok, on a passé l'épreuve du feu. Et donc ça, c'est bon sur un dossier en particulier. Hein, il y a plein de dossiers où les pactes doivent être différents, bien évidemment, mais on était assez content de ces cas de figure là, donc c'est important. Et puis après il y a aussi pareil, je peux aussi en parler des heures, excuse-moi.
C'est passionnant, c'est des sujets qui sont
mais il y a aussi de prévoir un gestionnaire de pacte. Qu'est-ce que c'est un gestionnaire de pacte? C'est quelqu'un qui va potentiellement faire exécuter à la place des parties leurs engagements et notamment de cession. Pourquoi c'est intéressant? C'est que quand vous avez un engagement de cession, une promesse de cession, et notamment dans des cas de manquement d'engagement d'associé, on peut se retrouver à lancer une procédure. Et pendant cette procédure, cet associé défaillant, il reste au capital. Et bon, je vais rien apprendre à personne pour dire qu'une procédure judiciaire, ça peut durer des années. Donc, vous pouvez avoir votre associé, et ça peut être vraiment très, très embêtant, d'avoir encore cet associé défaillant-là au capital. Ça peut bloquer d'autres investisseurs.
Tout à fait, bien sûr.
Donc, ça, c'est un vrai sujet. Le gestionnaire de pacte, ça va permettre, donc il faut que ce soit très bien bordé également, la sortie de l'associé défaillant avant la procédure, et la charge de la faute sur cette sortie au niveau judiciaire va reposer sur le défaillant qui va assigner, s'il estime qu'il en a le droit, assigner la société pour dire vous m'avez sorti, vous n'aviez pas le droit, et lancer une procédure. Donc c'est aussi des opérations extrêmement compliquées à réaliser, notamment en précontentieux, et qui sont des opérations aussi passionnantes à effectuer.
Merci beaucoup Romain. Alors, dans le cas où la société, le vendeur partiel veut faire rentrer un nouveau partenaire, comment le pacte d'associé est modifié en conséquence?
Alors d'un point de vue très concret, on peut avoir une société où on a déjà un pacte d'associé. En fonction de son statut, est-ce qu'il va être opérationnel, est-ce que il va être passif, est-ce que on a déjà envisagé l'intégration d'un salarié, on peut avoir plus ou moins de travail à faire. On peut avoir à minima une adhésion au pacte avec quelques clauses complémentaires peut-être sur un engagement opérationnel. Après, sur des opérations beaucoup plus importantes, généralement, le pacte, il est refondu de A à Z. Et puis, quand on intègre des investisseurs, généralement, les investisseurs, on part pas du pacte de la société, on part de leur pacte qui soumettent, et puis ensuite, on peut effectivement le moduler, l'adapter à la situation, ce qui est aussi un exercice intéressant. Donc voilà comment ça se passe concrètement. On peut avoir aussi un entre-deux, c'est-à-dire on prend le pacte d'origine et on le modifie sur un certain nombre de clauses et on a un avenant. On peut avoir aussi, dans le cadre de, quand on va, je sais pas moi, intégrer plusieurs associés minoritaires, opérationnels, peut-être salariés, donc c'est une petite intégration avec un cash-out, et que on a des fondateurs qui sont éventuellement liés à des investisseurs dans le cadre d'un pacte d'associés qui est un document confidentiel, hein, c'est-à-dire que ça reste entre les parties. J'ai oublié de l'évoquer ça, mais c'est important contrairement au statut. Donc c'est pour ça que c'est un instrument qui est très intéressant, c'est que les statuts sont publics, les modalités d'association et qui bordent d'ailleurs les modalités d'association du pacte peuvent rester confidentielles. Donc parfois dans certains cas de figure, on peut avoir intérêt à ce qu'elle reste confidentielle et que les salariés ne les connaissent pas. Donc dans ce cas-là, on a un instrument qui est le mini-pacte. C'est ce groupe d'associés-là s'associe selon des termes limités avec ses associés minoritaires, on va dire de seconde catégorie, mais sans que ce soit péjoratif. Hein.
Bien sûr.
Mais voilà, donc ça, on a c'est concrètement comment ça peut se faire.
Merci beaucoup Romain. Alors, on approche de notre échange passionnant, mais j'aimerais revenir aussi sur une question qui est la partie fiscale. Donc, quelles sont les conséquences fiscales d'une telle cession, à la fois pour le vendeur, mais aussi pour l'entreprise?
Alors, donc encore une fois, nous on n'est pas fiscaliste.
Oui, bien sûr.
Mais oui, c'est un vrai sujet. Donc, on l'a évoqué en amont de la structuration, c'est de se dire, du point de vue du vendeur, quel va être le sort de la plus-value. Et quelle va être l'utilisation du produit de cession. Donc ça, il faut effectivement, et bon, je vais pas m'étaler sur les différents cas de figure parce qu'ils sont très nombreux, mais il y a aussi les problématiques de report au sursis d'imposition via les holdings les holdings personnels de dirigeants qui vont être cédants. Donc il faut bien sécuriser tout ça. On peut avoir des schémas aussi, il peut être intéressant de vendre carrément la holding plutôt que les titres qui sont détenus par la holding. On peut aussi se poser la question, on l'a évoqué, des différents abattements qu'on peut mettre en place en fonction du statut du cédant. Au-delà de ça, d'un point de vue contrôle, on a des seuils quand même de contrôle qui ont des impacts sur la fiscalité, et pas au moment de la cession, mais au moment potentiellement du dénouement. Je pense par exemple à des holdings, par exemple de Manco, ouais. Par exemple, où on va avoir une partie minoritaire, je sais pas moi, à 10%, et on a quand même dans l'objectif de diluer le capital par des opérations d'investissement ou d'intégration des émissions d'instruments relutifs qui vont venir diluer le capital. Pour peu que cette manco elle descende en dessous du seuil de 5% peut-être qu'elle est assez peu sollicitée au point de vue de la gouvernance globale de l'entreprise, on peut échapper à la qualification de titre de participation. Et donc c'est dans cette hypothèse-là, qu'est-ce qui se passe? Bah la plus-value elle est taxée à l'IS. Donc ça a l'air de rien comme, enfin si, quand je te le dis là, ça a l'air de quelque chose, mais c'est pas souvent quelque chose qu'on peut anticiper. Donc ça aussi c'est d'alerter, de dire attention. Moi pour mes clients dans la Manco qui sont vraiment dans l'opérationnel, pas forcément dans la direction pure, je veux par exemple une clause dans le pacte d'associés de garantie de participation, de clause limitative de prise de participation ou de clause d'antidilution pour permettre de maintenir à flot ces 5%. Après on a aussi des sujets d'intégration fiscale dans un groupe intégré, si on descend de ça du pourcentage de détention, ça peut avoir un impact effectivement sur l'intégration fiscale. Quand je suis dans une holding historique avec un certain nombre d'endettements qui sont portés, et puis bien évidemment avec le sujet de l'amendement Charas, ça a aussi à anticiper, mais de se dire si je descends en dessous du seuil de 95%, je peux avoir un sujet sur mon intégration fiscale. Donc ça aussi c'est d'avoir ce réflexe-là. Ouais. Et aussi, on a eu d'autres schémas de montage avec une holding patrimoniale, une holding opérationnelle aussi. On peut distinguer avec des formes sociales distinctes, SAS, URL, SASU, URL, par exemple. On peut avoir des schémas d'optimisation sur la rémunération. Donc voilà, ça c'est assez vaste aussi, mais d'avoir cette capacité à dire attention, là il y a un sujet, on l'anticipe, on le board et on sécurise, et après on a un client qui est paré sur la durée.
Merci beaucoup Romain. Alors pour clôturer ce très bel échange, et évidemment c'est toujours compliqué, on pourrait encore en parler des heures, hein, parce que t'en parles tellement bien et t'arrives à être très clair Romain, et je te remercie vraiment pour ça.
Merci.
Alors, pour clôturer ce bel échange, est-ce que tu aurais des conseils ou peut-être des éléments que j'ai pas mentionné, des questions que j'ai pas évoquées avec toi, des éléments qui te semblent importants et que t'aimerais ajouter avant de finir cet enregistrement?
Écoute, non, je trouve qu'on a quand même balayé largement le sujet. Mais effectivement, on peut en parler des heures. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que il y a des solutions qui émergent sur des problématiques particulières. Et c'est ça qui est intéressant dans notre job, c'est que quand tu mets le nez dans le moteur, tu peux trouver des structurations intéressantes, des outils intéressants au niveau contractuel, faire du jus de cerveau. Moi, j'aime bien qu'on fasse du jus de cerveau. Et chaque dossier est un peu unique, j'ai envie de dire. Bon, après, il y a effectivement des redites, mais c'est un métier dans lequel on s'ennuie pas, puisque à chaque fois, il y a quand même des pistes de réflexion. Donc, C'est ça qui est intéressant dans ce métier, si c'est juste exécuter un modèle, ça n'a pas d'intérêt.
Bien sûr.
Voilà.
Bah, merci beaucoup Romain, et je recommande tous les dirigeants, les entrepreneurs ou voilà, toutes les personnes intéressées par de tels opérations de contacter Romain et de le suivre aussi sur les réseaux. Et n'hésitez surtout pas à contacter des avocats dont c'est le métier, donc des avocats spécialisés. Et en l'occurrence, c'est ce que tu fais tous les jours, Romain. Donc un grand merci à toi, c'était vraiment passionnant.
Merci.
Et on fera évidemment d'autres épisodes ensemble sur certains sujets qu'on a évoqués.
Avec grand plaisir.
Donc voilà, vous aurez l'occasion pour les personnes qui nous écoutent de retrouver aussi prochainement Romain. Merci à toi et à très vite surtout.
À très bientôt.